posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente la 12e saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, le débrief avec Nicolas Dose.
Bonjour et bienvenue. Dernière émission avant la finale. Il y a eu le coaching la semaine dernière. Ça va être le débrief cette semaine de ces rendez-vous qui ont été organisés par nos coachs, par le jury, pour accompagner leur poulain. Le poulain d'Evelyne Platnik-Cohen s'appelle Poussin Victor. Celui de Fabrice Marcella, c'est Cherpay. Geoffroy de Bec de Lièvre accompagne Travolib. Et Eve Chégaret, bonjour Eve.
Bonjour Nicolas.
Et elle accompagne WeFarmUp, qui reste la présidente de notre académie. À ce point-là de la compétition, quel bilan on tire de cette émission coaching? Et on est à une semaine de la finale.
C'est chaud, hein, c'est tendu. Chaud. Alors, oui, la France est une start-up nation, donc on n'est pas surpris d'avoir des talents, des projets géniaux, etc. Mais ils sont vraiment très bons, ils sont à des niveaux d'ambition vraiment élevés, et il y a de gros enjeux. Et vous vous rendez compte que cette exposition médiatique, c'est génial pour eux, mais il y a aussi à perdre s'ils sont pas bons. Donc
bon,
c'est
alors
tendu.
On les a tous donc confrontés à des spécialistes, à des professionnels, à des gens du même univers qu'eux pour qu'ils puissent vendre leurs solutions, réussir, savoir en parler, savoir s'améliorer, savoir accélérer. Cette séquence débrief débute tout de suite avec notre premier candidat, pas premier par la taille ou les chances de l'emporter, premier simplement par le classement alphabétique. Il s'appelle Poussin Victor.
BFM Academy, le débrief.
Bonjour Alain Tixier.
Bonjour Nicolas.
Dernière émission avant la finale en public, hein, ce sera le 19 juin. Evelyne Platnik-Cohen, bonjour.
Bonjour.
Bon, là, on est dans la partie débrief, on a vécu le coaching la semaine dernière. Je rappelle que Coussin Victor, c'est donc cette aide numérique pour les personnes âgées, le coussin qu'on pose sur les genoux, qui est relié à la télévision, qui est muni des fonctions les plus essentielles et les plus évidentes et les plus simples d'utilisation. Voilà, c'est une sorte de grosse télécommande, en fait, qui est reliée à sa télévision. La semaine dernière, avec vous, Evelyne, Alain, on a vécu ce rendez-vous qui a été organisé avec Guillaume Richard, le président d'Odo. Tiens, je vous propose de regarder les meilleurs moments de ce rendez-vous et on débriefe juste après.
Je me dis qu'une entreprise comme la vôtre qui est leader dans ses services, qui connaît parfaitement le métier, pourrait nous aider à co-construire un coussin qui rende des services encore plus grands et aux 17 000 collaborateurs qui interviennent, et éventuellement sur les 100 000 bénéficiaires que vous avez, j'imagine qu'il y en a une proportion qui serait à l'aise avec ça, parce qu'elles ne le sont pas avec les tablettes, avec les smartphones, elles ne savent pas forcément gérer les nouvelles technologies, et nous on leur permet de rester avec nous dans la vraie vie. Un peu sur la philosophie que vous avez dit, je la partage vraiment.
Je vais réfléchir à est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi qui serait la personne la plus adaptée pour travailler véritablement sur cette expérimentation, sur comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, sur quels seraient les avantages des uns et des autres.
Très bien, c'est une bonne perspective.
Evelyne Platnik-Cohen, est-ce que la mission a été réussie? Cette rencontre entre Alain Tixier et le président d'O2, j'ai envie de dire qu'il en connaît un rayon sur les services à la personne, y compris les personnes âgées. Est-ce qu'après coup, vous vous dites, mission réussie?
Alors, on le saura un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, j'espère qu'avant la finale, on aura même eu un second rendez-vous. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'Alain, en une demi-journée de coaching, hein, d'ailleurs, si je faisais qu'une demi-journée, je gagnerais pas ma vie. Mais heureusement qu'il y a encore besoin de coaching parce que c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à mettre en place. C'est-à-dire qu'il a un niveau d'écoute et de mise en place des techniques qui est vraiment super. Et qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à poser des questions. Alors, il a un sens naturel de l'écoute, Alain, hein, donc c'est pas très compliqué pour lui d'écouter, parce que c'est naturel chez lui. Mais poser des questions et aller vers une solution, il a pu utiliser des questions, ce qu'on appelle nous des questions problèmes, des questions solutions. Donc, il a vraiment utilisé toute la technicité qu'on avait abordée ensemble. Alors, il y a encore un peu de mise en tension à faire lors des questions pour aller encore plus chercher chez la personne en face de soi des solutions. Et puis, il y a un sujet, moi, que j'aurais encore peut-être plus creusé, c'est sa faculté à réaliser des partenariats. Parce qu'on sent que Guillaume Richard, quand il s'exprime, il est très porté sur lui-même, sur son entreprise. Mais quelle est sa capacité réelle d'ouverture à l'extérieur et de prendre avec lui des solutions qui ne sont pas toujours les siennes? Et ça, je pense qu'avant d'attaquer la phase de découverte, ça aurait été de la phase même d'argumentation, ça aurait été intéressant de pousser un petit peu plus son questionnement sur ces sujets-là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Tixier, de ce que vient de dire Evelyne Pénicoën?
Ben, je la rejoins parfaitement. Alors, c'est vrai qu'une demi-journée, c'était peut-être un peu court, mais comme il y en aura d'autres, on essaiera d'aller plus loin avec Monsieur Richard, s'il a du temps à nous consacrer encore.
Evelyne, vous disiez, il a le sens de l'écoute, Alain Tixier, mais il y a un moment, il faut délivrer, vous savez, il faut démontrer ce que la partie démonstration du produit, là.
La partie démonstration était intéressante, parce que si je laisse Alain en roue libre, il va nous démontrer son produit, il peut en parler pendant une heure et demie. Et là, on sent qu'il a essayé d'impliquer la personne qui était en face de lui, Guillaume Richard, dans la solution en disant voilà comment vous verriez ce coussin pour vous, puisqu'il a une capacité à customiser le coussin. Donc il a vraiment impliqué, d'ailleurs Guillaume Richard a joué le jeu. Moi, il y a un sujet évidemment qui est très important, qui est la fin du rendez-vous. Et chez Booster, on a l'habitude de dire il y a des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Bon, là, on a une petite bronze, c'est-à-dire une étape suivante qui n'est pas encore ultra consolidée, c'est-à-dire véritablement la mise en place du rendez-vous suivant. Moi, j'aurais mis un rendez-vous téléphonique au minimum avec lui. En plus, il fallait profiter. Les caméras, il ne peut pas dire non. Donc, il fallait profiter. En tout cas, voilà, c'est de se dire comment je termine et quelle est mon étape suivante avec la personne que j'ai en face de moi. Donc, on va dire qu'on n'est pas en or, on n'est pas en argent, on est sur une médaille de bronze.
Bon,
qui est déjà pas mal.
En quelques secondes, avant justement d'écouter le débrief, cette fois-ci, de Guillaume Richard, en sortant, vous vous dites, j'ai été bon, j'ai marqué des points. Quelle a été votre conclusion intime et personnelle?
Alors, juste quand même, pour revenir sur ce que vient de dire Evelyne, il y a eu une étape suivante, c'est qu'on s'est échangé nos cartes. Et les cartes...
Oui, mais ça, c'est de la politesse.
Non, parce que derrière, il y a un échange de mails. D'accord. À chaque fois que je rentre d'un rendez-vous, je fais toujours un mail de courtoisie. Et c'est un mail qui était de la courtoisie, mais qui engage une prochaine discussion. Donc, en fait, cette étape-là a été faite quand même.
Bon, vous êtes dit, j'ai été bon à la sortie. C'est bien barré.
Je peux pas dire que je me sentais bien.
D'accord.
Donc après, c'est pas à moi de le dire si j'ai été bon ou pas, mais par humilité. Mais en fait, oui, j'espère l'avoir été.
Alors, c'est pas à vous de le dire, c'est peut-être à Guillaume Richard lui-même de s'exprimer, oui. Parce que chacune des personnes qui a accueilli nos finalistes, on est allé aussi un peu prendre leur ressenti à la sortie, évidemment, sur le thème j'aime pas. Voilà ce que nous a dit Guillaume Richard.
Le vrai point derrière, c'est OK. Je fais un super produit, comment derrière je vais pouvoir le commercialiser? Comment derrière je vais pouvoir faire d'une très bonne idée un succès? Et qu'il soit un succès commercial, parce qu'il faut impérativement à un moment vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous pouvez beau avoir réalisé le produit le plus incroyable du monde, si vous ne réussissez pas à le commercialiser, si vous ne réussissez pas à avoir du chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas derrière pérenniser la société, la développer, continuer à accroître les fonctionnalités. Et donc, comme beaucoup dans ce secteur, son point principal, il n'est pas tant sur la qualité de son produit que sur sa capacité à le commercialiser.
Bon, j'imagine qu'Evelyne boit du petit lait, hein. Une bonne idée si elle n'est pas vendue. Nada ?
Bon, bah merci Guillaume. Mais c'est intéressant dans son retour, ça veut dire qu'il n'a pas encore acheté. Il n'a pas considéré qu'il avait encore acheté. Il a considéré qu'il avait encore une présentation. Et c'est bien la partie, son implication personnelle, qui n'est pas encore vraiment validée. C'est-à-dire sa capacité à insérer des offres qui soient différentes. On le sent dans son débriefing. Hein. Il y a encore du chemin à faire pour y aller. Mais je suis sûre qu'on va y arriver et sûrement on va y arriver ensemble.
Bon, alors il faut vendre, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore finalement votre talon d'Achille ? La capacité à vendre, l'idée est merveilleuse, elle s'imprime exactement dans le monde dans lequel nous vivons. Ouais, mais une idée qui n'est pas...
Le talon d'Achille, ça l'était, probablement. Maintenant, avec les compétences, la montée en compétences de ces argumentaires-là, des soutiens d'investisseurs, des soutiens de croissance, on sera capable de le vendre dès cette année, oui, j'en suis convaincu.
Dès cette année?
Oui, oui.
Donc ça veut dire qu'en fait, quand Guillaume Richard émet une forme de doute, pensez que vous allez rapidement prouver qu'il a tort, quoi.
Alors, c'est pas qu'il a tort, c'est que, et le doute, c'est ce qui permet de générer les challenges. Donc en fait, on est dans un monde de challenge aussi, donc on peut réussir le challenge de créer de l'avenir pour les personnes âgées.
Bon, je vous présenterai quelqu'un qui est assez bon dans la vente, qui s'appelle Evelyne Pétnik-Cohen, et c'est un peu son truc, vous verrez, je suis sûr qu'elle pourra même accélérer votre calendrier. Voilà, c'était donc le débrief de la rencontre entre Alain Tixier et Guillaume Richard, le président d'O2. Je vais accueillir tout de suite notre second finaliste, il s'appelle Sherpay, et il est le poulain de Fabrice Marcella.
BFM Academy. Le débrief.
Bonjour David Finel.
Bonjour Nicolas.
Il est président fondateur de Sharepay. Bonjour Fabrice Marcella.
Bonjour Nicolas.
On a vécu la semaine dernière ce grand rendez-vous entre David Finel et Stéphane Priamy, le directeur général France de Sofinco, l'un des géants du crédit à la consommation, avec, j'imagine, l'ambition de réussir à vendre la solution Sharepay en marque blanche à un géant comme Sofinco. Tiens, je propose de regarder un petit best-of de ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous et on débrief juste après.
Très bien, en tout cas c'est vraiment un beau projet. Donc moi je note, un, il faut qu'on regarde si on peut faire un partenariat sur la partie crédit pour alimenter derrière les cartes en crédit. Deuxièmement, il faut qu'on regarde si on a une possibilité de mise en commun des distributeurs, entre mes grands distributeurs, les magasins, pourquoi pas les concessionnaires auto, et l'utilisation éventuellement de ce que vous appeliez la capacité à faire un peu un rabais ou une réduction du prix en négociant partenaire par partenaire. En tout cas, c'est dans l'air du temps, vraiment, et je pense que ça correspond complètement aux usages de vie des gens. Donc ça ne peut que marcher.
Bon, voilà, David Finel, évidemment, il est le patron fondateur de Sharepay. Comme on vit avec eux depuis plusieurs semaines, on finit par penser que tout le monde sait exactement ce qu'ils font. Je vous rappelle que Sharepay, c'est du paiement collaboratif. C'est la carte bancaire, la carte en plastique que l'on connaît, mais qui va permettre de payer à plusieurs, de mutualiser des dépenses, de partager des factures si on veut le faire. Faites l'amour, pas les comptes. C'est vrai que j'adore ce slogan, il est absolument génial. C'est opéré par Mastercard, ce qui peut donner quand même une sorte de gage de sécurité. On se dit, ce sont pas des petits jeunes venus de nulle part qui vont jouer avec mon argent sans que je n'ai aucun contrôle, sans rien. Question de confiance est quand même une question super importante. C'est vraiment de la fintech de paiement partagé. Si on doit tirer les leçons de ce rendez-vous avec Sofinco, qui est quand même un rendez-vous, j'imagine qu'on n'en décroche pas comme ça tous les matins, tous les quatre matins. Fabrice Marcella, qu'est-ce que vous me diriez en termes de conclusion?
Je pense que suite à ce rendez-vous, David va en décrocher d'autres. Ça va se concrétiser. J'espère en tout cas plein d'avenir avec Sofinco. Le rendez-vous, je l'ai trouvé extrêmement constructif, positif et un intérêt marqué. On verra ça peut-être tout à l'heure, un intérêt marqué du dirigeant suite à l'échange qu'a eu David avec lui.
Alors, la semaine dernière, Fabrice, vous me parliez de l'importance de la posture, l'importance de la manière de parler, de se préparer à la personne que l'on va rencontrer. Est-ce qu'il l'avait bien fait? Est-ce que c'est comme ça que ça a été ressenti?
Effectivement, on n'est pas dans un exercice de pitch. L'objectif, c'est que David s'adresse à un dirigeant en tant que dirigeant lui-même, de partager une vision stratégique, et je trouve qu'il a parfaitement réussi. J'allais dire même un petit peu trop, parce qu'on attend de lui aussi qu'il sorte un petit peu de cette posture-là. C'est aussi une start-up. Et donc, dans le code des start-up, on attend peut-être une posture un petit peu décalée. Il était beaucoup dans l'humilité, un petit peu trop, certaines fois, je trouve.
Dans l'humilité, David, pour éviter que les géants vous voient arriver comme la fintech qui finira par les dévorer, c'est ça?
Dans l'humilité, parce que j'avais quand même quelqu'un, une grande personne en face de moi, à qui j'expliquais.
Il était grand par la taille aussi.
C'est joliment dit.
Non, mais à qui j'expliquais quelque chose. Voilà, on n'a pas la même sur. Enfin, il est au-dessus d'une start-up comme nous en tant que dirigeant. Donc il fallait être humble. Et puis nous, on a vraiment envie de faire des partenariats. Donc il fallait instaurer quelque chose d'égal à égal. Alors peut-être que j'aurais dû être plus agressif. J'essaierai de le faire la prochaine fois.
Non, tu l'étais un petit peu, je cite, les banques sont parfois un peu en retard. Ça, tu l'as quand même dit, donc t'as quand même réussi à le sortir.
Mais les banques sont un peu en retard, justement, c'est pas un peu arrogant quand même?
Mais voilà, là, ça l'était peut-être un petit peu. Mais voilà, c'est aussi ce qu'on attend certaines fois des startups.
Et surtout, c'est ce qu'on peut nous offrir à ces banques-là, puisque nous, c'est un problème qu'ont les banques, elles sont un peu en retard, elles n'arrivent pas à innover. Et comme nous, on leur apporte une solution qui leur permet d'innover sans vraiment le faire en interne, il faut tout le temps jouer sur ça.
Est-ce qu'il faut être totalement transparent? À un moment, vous lui dites quand même, opérationnellement, on n'est pas totalement prêt. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Le gars, vous venez lui vendre une marque blanche. Bon, mais n'y comptez pas pour tout de suite.
Non, mais c'est peut-être trop d'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un de très honnête et j'aime bien dire les choses comme elles sont. Et en fait, entre l'honnêteté et la façon de présenter, il y a peut-être des choses à faire. Mieux présenter les choses en restant.
Ça aurait pu faire une bonne chronique pile ou face, ça, de leur closier, mentir ou dire la vérité, Fabrice Marcella.
Oui.
Pas évident.
Non, c'est pas évident, mais peut-être que tu aurais pu enchaîner sur. On peut travailler ensemble sur la construction d'une solution qui va répondre parfaitement à votre besoin, en fait. Tu n'étais pas prêt à ce moment-là, mais tu pouvais co-construire avec lui la solution.
C'est vrai. Mais après, quand opérationnellement, on n'est pas prêt. Ça veut dire si demain vous voulez la solution, on l'a pas encore. D'accord. Peut-être qu'il ne faut pas le dire, puisque de toute façon, une banque ne fera jamais des choses dans ce laps de temps. Et donc, peut-être, imaginez qu'en 2-3 mois, là, on serait prêt. Et donc, ne pas débattre sur ça.
Bon, soyons concrets, Sofinco, vous les avez rencontrés. Il peut y avoir quelque chose derrière. Il peut se passer des trucs. Ou alors, c'était pour les bons usages de la BFM Academy et sans plus.
Non, j'ai suivi les conseils de Fabrice. Donc, j'ai relancé Stéphane suite au rendez-vous pour rappeler les grandes lignes du rendez-vous et sur les points sur lesquels je souhaiterais qu'on avance. Et donc, j'attends que les choses se fassent. Mais nous, c'est vraiment une réelle volonté et dans notre roadmap en tout cas d'aller vers ce genre de solution et de partenariat.
Vous savez ce qu'on a fait, on a quand même demandé à Stéphane Priamy de Sofinco France comment il a vécu l'événement, comment il a vécu ce rendez-vous, ce qu'il a aimé et ce qu'il a moins aimé. Regardez.
Alors j'ai trouvé David extrêmement convaincant sur plusieurs domaines. Alors, la première chose, c'est que un projet dans l'ère digitale, il faut qu'il réponde à un besoin de la vie des gens. Or là, on répond vraiment à un besoin de la vie des gens et tout le monde a dans son entourage connu des cas qui auraient été résolus ou qui auraient été simplifiés avec cette carte. Ensuite, je trouve que le projet est bien conduit. Techniquement, il est déjà assuré. Et puis, le déroulement de la suite me paraît assez bien calé. Alors, dernier point, qui est en tout cas pour les startups le plus important, il n'est pas non plus figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait que son produit a de l'intérêt pour le client final. Mais il est maintenant dans l'étape qui est de trouver des réseaux de distribution, des réseaux de partenariat, des réseaux qui lui permettent d'amplifier la distribution de sa carte. Et donc, je trouve ça très bien. Tout s'enchaîne assez parfaitement. Alors, ce qui pourrait maintenant améliorer ou faire que ce soit un succès complet, c'est premièrement être bien sûr de la technologie. Il faut être certain que dès qu'il va lancer sur des dizaines de milliers de porteurs, ça tienne la charge, ça tienne la route et ça fonctionne bien. Et puis, le deuxième aspect, c'est maintenant de trouver les bons distributeurs, les bons réseaux, les bons partenariats pour pouvoir aller très vite et atteindre très vite un seuil critique qui lui permette de montrer la rentabilité et l'efficacité de son process.
Bon, petite réaction rapide, David Finet. Alors d'abord, Fabrice Marcella, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, puis on aura quand même le moyen de réagir aux quelques critiques formulées.
Bien sûr, moi je voulais le féliciter. Hein. J'ai noté extrêmement convaincant. Ça répond à un usage attendu en tout cas des clients. Crédibilité, c'est génial. Enfin, par rapport à la posture dont on parlait tout à l'heure. Et puis un esprit extrêmement ouvert, en tout cas au dialogue et à l'évolution du produit. Donc bravo encore pour cet entretien réussi.
Quand même, David Finet, est-ce que vous êtes sûr de la techno? Parce que là, on peut être sur un échantillon de 10 copains avec qui on teste la carte Sherpay, mais si on imagine cette solution à un niveau véritablement important, il faut que la technologie suive. Hein.
En fait, on a beaucoup travaillé la technologie. On a fait différentes phases. On a fait d'abord une phase de prototype, ensuite une phase d'alpha avec 400 personnes. Et là, on est dans une phase de bêta privée, donc c'est-à-dire qui n'est pas ouvert au grand public, avec 4000 personnes depuis janvier. Et donc, petit à petit, on améliore. Et en fait, là, on a vraiment conscience qu'on a une technologie scalable qui peut être ouverte à tous.
Ça peut tenir des millions de personnes.
Là, ça peut tenir des millions de personnes. Okay. Et d'un point de vue distribution, puisque c'était la
deuxième question. C'est toujours pareil, il y a un moment, la bonne idée, il faut quand même qu'elle délivre, hein, comme disaient les Anglais.
Déjà, on reçoit beaucoup de demandes sans faire aucun marketing et sans faire aucune communication, donc c'est déjà un bon point. On est en train de travailler sur des partenariats de distribution avec différentes banques. Donc pour l'instant, je peux pas dire grand-chose parce qu'on est sous des accords de confidentialité. Okay. En France, mais aussi au Portugal, on est en train de faire des partenariats. En Israël, on a aussi travaillé, parce qu'ils sont très en avance sur tous ces sujets, avec une boîte qui s'appelle Isracard, qui est le réseau CB israélien. Et aux États-Unis, on est aussi en train de travailler sur des opportunités, puisqu'on a la chance d'avoir un produit qui peut se distribuer partout facilement. Et donc, on est vraiment dans ces sujets-là en ce moment.
Bon, à la fin de l'émission, on vous retrouvera avec Laure Closier pour les... Vous verrez. On appelle ça les QQT, je vous en dis pas plus. On aura droit aux raisons qui mériteraient que l'on vote pour vous, défendues par Fabrice Marcella, qui vous donnera peut-être un ultime conseil avant la finale. Dans un instant, on retrouve notre troisième candidat, troisième finaliste. Il s'appelle Mathieu Burin et c'est le fondateur de Travolib.
BFM Academy, le débrief.
Avec Mathieu Burin, bonjour.
Bonjour.
Travolib et Geoffroy de Bec-de-Lièvre qui l'accompagne donc depuis le début de cette saison. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous. Alors je vous rappelle ce que fait Travolib. C'est pas simplement une histoire de devis, Travolib. C'est un service totalement clé en main. Ils vont s'occuper des visites avant travaux, ils vont s'occuper des devis, ils vont s'occuper de la facturation, du paiement, des accès aux subventions, des accès aux aides, de la certification administrative, de la sécurisation des paiements, de tout en fait, hein, Mathieu. C'est ça, voilà. C'est du A à Z, comme je disais, pour l'ensemble de ceux qui veulent quand même réaliser des travaux à domicile, des travaux chez eux. Ça reste une place de marché de mise en relation, on est quand même d'accord. Hein.
Hein? Mais c'est bien plus que
bon,
ça.
C'est bien plus que ça. Alors, la semaine dernière, on a pu assister au rendez-vous entre Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, avec Mathieu Burin, fondateur de Travolib. Petite piqûre de rappel avant de débriefer.
Est-ce que t'en es à un stade où tu considères que déjà en France, c'est-à-dire là où t'as commencé, ça marche bien?
Non.
Bien.
En Île-de-France, c'est pas mal.
D'accord.
Donc voilà. C'est première étape, les villes, et après ce sera plus large.
Bon, je dirais déjà que avant de penser à exporter, faudra déjà que ça marche bien en France.
D'accord.
Parce que c'est un peu le niveau 2 d'aller quand même étendre une activité à l'étranger. Donc si déjà on n'est pas certain de son modèle sur son pays de départ,
clairement,
c'est un petit peu risqué d'aller l'étendre. Bon, enfin, déjà on était parti sur l'international, on a complètement shifté. Moi je reviens sur le business, hein, parce qu'on ne va pas s'étendre à l'international si le pays de départ il n'est pas costaud.
À Geoffroy de Mec de Lièvre, il y en a eu des questions. Hein. Il y en a eu des questions de Frédéric Mazzella.
Énormément.
Énormément.
Ouais, Frédéric est quelqu'un de très curieux. Il a besoin de comprendre le modèle économique. Il a vraiment voulu rentrer en profondeur. Donc, il l'a totalement mitraillé. Mais il ne s'est pas démonté, Mathieu. Bon. Il est resté calme, serein. Il a répondu, factuel.
Il a bien réagi, donc.
Il a très bien réagi. Il était en self... Enfin, je ne pense même pas qu'il était en contrôle. Il est juste lui-même. Et il a juste essayé d'expliquer de manière le plus simple possible.
Et vous croyez qu'il a réussi à tout dire? C'est-à-dire la partie, effectivement, place de marché entre ceux qui fournissent des travaux, des prestataires, et ceux qui désirent faire des travaux. Mais avec toute cette offre de services qui fait la différence par rapport aux places de marché.
Oui, je pense que le message est bien passé. Alors, ça a quand même pris... quelques minutes, longues minutes, une dizaine de minutes pour que Frédéric fasse vraiment accoucher Mathieu de, mais concrètement, quels sont les avantages et les bénéfices et pour l'entreprise et pour le client. Après, d'ailleurs, Frédéric a résumé, hein, il a dit, voilà, pour les entreprises, c'est un gain sur l'assurance, c'est l'apport de clients, c'est des prix moins chers sur le matériel pour les clients. Mais il a eu un petit peu de mal quand même à arriver sur les bénéfices, mais je pense qu'il a très bien compris le modèle économique. Puis il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est que d'entrée de jeu... Mathieu a dit, je vais aller à l'international. Et là, Frédéric a dit, attends, tu vas te calmer. D'abord, tu es rentable en France. Et puis après, on en parlera. Donc, il a remis les choses un peu dans l'ordre. J'ai trouvé ça très intéressant.
Bon, Mathieu, vous l'avez vécu comment, ce rendez-vous avec Frédéric Mazzella? Il est dur, finalement, Frédéric Mazzella?
Non, il est extrêmement précis et pointu. Mais c'était vraiment formidable. Extrêmement précis sur les questions qu'il pose, sur la compréhension du business qu'il a. Et en fait, nous, on a un business qui est assez compliqué, mais extrêmement intéressant. Et il vous écoute en vous posant exactement les questions qui l'embêtent pour que lui, il comprenne.
C'est-à-dire qu'on a un business, vous avez un business compliqué pour un professionnel, pour quelqu'un qui éventuellement voudrait investir dedans.
Oui.
Vous n'avez pas un business compliqué, a priori, pour le consommateur qui va essayer d'utiliser vos services.
Hein. Ben c'est ça un peu la magie du truc, c'est qu'on a un business qui est extrêmement compliqué. Les travaux, c'est compliqué. Et nous, notre mission, c'est de le rendre ultra simple et ultra facile.
Bon, à en croire, Geoffroy, il vous a quand même fallu un petit peu de temps pour vous chauffer. Un peu diesel au début, non?
Peut-être, mais après, il y a chacun des éléments sur lesquels c'était vraiment... il y avait plein de questions. Et moi j'ai l'habitude, je pourrais parler des heures sur le business model, et justement encore une fois c'est simplifier, faire comprendre l'offre et voir pourquoi nos utilisateurs sont si contents que ça.
Je vous parle de Bec de Lièvre, en fait on se rend compte que lorsque vous me racontez ce rendez-vous qui a mis un petit peu de temps finalement à se structurer, à devenir je dirais en rythme de croisière, ça veut dire que cette logique du pitch dont on parle tout le temps, être en capacité finalement de vendre son histoire en quelques mots, en quelques formules, ça reste absolument essentiel. J'avais posé la question à des quantités de gens, hein, des Jacques-Antoine de Grangeon, des gens comme ça, qui disaient que malgré tout, même si ça a un côté caricatural le pitch, et ben c'est vachement important.
Ouais, ça reste essentiel, et après c'est plus ou moins facile en fonction des industries et des secteurs. Et je pense que voilà, Mathieu a énormément simplifié son message. Je pense qu'il lui reste encore un tout petit peu de travail à faire là-dessus pour que ce soit encore plus facile. Mais en tout cas, c'est bien parti.
Bon, Mathieu Burin, on oublie l'international pour l'instant, si j'ai bien compris. Une autre fois, c'est ça?
Non. Dans 2-3 ans.
Dans 2-3 ans. Alors, Frédéric Mazzella, lui aussi vous a rencontré, Mathieu Burin. Lui aussi, il a un avis sur ce que vous faites. Il va peut-être pas tout vous dire comme ça, mais enfin, on lui a quand même posé la question pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Regardez.
Alors, j'ai trouvé que Mathieu avait des étoiles dans les yeux, donc ça c'est un très bon point, puisque un entrepreneur doit être motivé et avoir la passion et la motivation pour franchir toutes les montagnes. J'ai trouvé qu'il connaissait bien son activité, même s'il passe beaucoup de temps effectivement à l'expliquer. Il faudrait qu'il aille plus vite vers la solution, assez souvent. Et voilà, j'ai trouvé que l'activité elle-même était très prometteuse, puisqu'effectivement il y a un vrai problème à résoudre, qui coûte très cher en plus quand on fait des travaux. Donc je pense que c'est très prometteur et qu'il va falloir clarifier le message pour pouvoir grandir plus vite.
Mathieu Burin, elles sont où vos étoiles là? Je cherche en vous regardant. Étoiles dans les yeux, c'est une marque de fabrique de toute façon des start-upers. Non, allez, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, aller plus vite vers la solution. Bon, alors comment on fait là?
Bah, on peut essayer maintenant.
Non, mais je sais pas, on va pas refaire tout le pitch, de toute façon, on aura l'occasion à la finale. Mais vous avez le sentiment que c'est vraiment, finalement, une difficulté encore aujourd'hui?
Non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de dire quelqu'un qui vous met en relation avec un bon entrepreneur, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Et c'est pour ça, être capable d'expliquer que c'est mieux, moins cher, en mettant des arguments sur le mieux et sur le moins cher, et très simplement de dire pourquoi, bah ça a de la valeur.
Bon, Geoffroy de Bec de Lièvre, c'est un vrai sujet, il dit Frédéric Mazzella. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'est pas encore en capacité de nous l'expliquer de manière efficace?
Si, je pense. Ce que vient de dire Mathieu, c'est intéressant. Hein. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est plus de qualité, c'est moins de préoccupations, c'est moins cher parce que c'est des tarifs achetés en gros. Voilà, il faut juste qu'il arrive à bien le simplifier tel qu'il l'a dit, mais il est clairement en capacité, oui.
Donc, on essaye comme ça pour voir si vous arrivez à me le faire en quelques phrases. On a de toute façon quoi, 59 secondes avant de marquer une pause.
Ok, super. Donc, du coup, je refais le pitch?
Ah, mais pour voir.
Parfait. Donc du coup, en fait, nous, quand vous faites des travaux de rénovation, vous savez pas combien ça vous coûte, vous savez pas à qui vous adressez, et puis c'est un méandre de problèmes. Ça reste l'industrie qui a le moins évolué depuis plus de 50 ans. Donc c'est une vieille industrie, un énorme problème, et en fait, ça a très peu évolué. Donc ça, c'est le constat de base. Ouais. Nous, on se dit, on va vous accompagner à chacune des étapes de votre rénovation, faire mieux, moins cher, mieux parce que c'est sécurisé, c'est plus simple, et en fait, c'est industrialisé par la technologie. Moins cher, parce qu'on s'occupe de tout pour les professionnels. Ils ont les outils, ils ont l'apport de business, ils ont les effets de gros et les effets mutualisés sur les assurances, sur ces matériaux. Voilà, c'est ça, toute l'offre all-in-one, Travelib.
Il manque rien, là, Geoffroy de Bec de Lièvre, il y a tout.
C'est bon.
Voilà, donc ça valait la peine d'organiser tous ces petits accompagnements et toutes ces séquences de coaching. Bon, c'est l'histoire donc de Mathieu Burin et de Travelib. Il est, dans cette saison 12, notre troisième finaliste. On les a pris par ordre alphabétique, hein, pour faire plus simple, mais ils sont tous finalistes, bien évidemment. On marque une pause dans cette émission débriefing. Je vous rappelle, dernière émission avant la finale, qui sera le 19 juin en direct sur BFM Business.
BFM Business présente la 12e saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, le débrief avec Nicolas Dose.
Le débrief, dernière émission avant la finale le 19 juin. Voilà, on a nos quatre finalistes, Coussin Victor, Sherpay et Travolib. Le débrief, la suite tout de suite, c'est avec WeFarmUp.
BFM Academy, le débrief.
Laurent Bernet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue pour cette avant-dernière émission de la saison 12. Eve Chégaret, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et donc celle qui coach hein, WeFarmUp jusqu'à la finale. Il y a eu ce fameux rendez-vous auquel on a assisté la semaine dernière. Rendez-vous organisé entre WeFarmUp et un grand lobbyiste de la place de Paris qui s'appelle Jean-Christophe Adler, qui est le président d'Affaires Publiques Consultants. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'investisseur, de client, c'est aussi une histoire d'implication politique. C'est un sujet éminemment politique. Regardez d'ailleurs les meilleurs moments de ce rendez-vous qu'on a compilé pour vous.
Il faut que WeFarmUp soit peut-être plus visible dans le monde politique, dans le monde institutionnel, y compris médiatique.
Je ne suis pas dans les salons parisiens, donc je décrypte de manière générale un peu ce qu'il faut faire, mais précisément, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre là, concrètement?
Très concrètement, ce dont il faudrait que vous disposiez, c'est déjà un service de veille, savoir ce qui se passe, que soyez vraiment au courant de qu'est-ce qui va se décider, qu'est-ce qui est à l'agenda, et finalement, sur quoi vous allez devoir intervenir. Ensuite, il faut que vous ayez une cartographie précise de toutes les forces en présence, en élargissant au-delà du seul ministère de l'Agriculture. Mmh. Il faut que vous puissiez intervenir auprès des différents acteurs.
Hein. Mais je me rends compte, en fait, il y a un champ qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour une petite entreprise comme la mienne, justement, de se disperser?
Bon, F. Chégaret, on vient de revivre les meilleurs moments de ce rendez-vous avec Jean-Christophe Adler. Si vous deviez me faire la synthèse de ce qui s'est passé.
Le vrai cadeau, c'est la méthodologie de travail. C'est que... On n'a pas eu seulement une marque d'intérêt, elle était là. Jean-Christophe Adler s'était renseigné, il était bien briefé, il était prêt, on est rentré dans le vif du sujet. Imaginez que vous repartez d'un rendez-vous de chez une éminence grise, comme il l'est, un vrai lobbyiste, quelqu'un qui connaît tout le monde finalement, avec une vraie méthodologie de travail et une idée géniale, celle d'être l'instigateur pour WeFarmUp d'une réunion interministérielle, parce que c'est vrai que ça ne touche pas que l'agriculture, c'est fiscal, c'est la cohésion entre les territoires, c'est l'emploi, et c'est cette solution-là que WeFarmUp doit incarner maintenant. Donc c'était un vrai cadeau. Et puis, il y a une petite promesse de donner un coup de pouce, d'ailleurs, sur le début des actions.
Ouais.
C'était pas mal, hein?
C'est très vrai, ouais.
Quel est le bilan que vous faites de cette opération, de cet événement, de ce rendez-vous? Est-ce que vous vous dites qu'effectivement, c'est un terrain sur lequel vous n'aviez pas forcément beaucoup travaillé auparavant, celui du lobbying, de la communication politique?
Alors, c'est un baptême du feu, parce que déjà, il fallait que je fasse naître chez mon interlocuteur un intérêt autour de notre idée.
Ça prend combien de temps?
Oh, ça a pris 3 minutes.
Et il commençait à être à peu près convaincu que vous n'étiez pas là par hasard.
Exactement, oui. Et puis j'étais très très surpris par sa capacité quasi immédiate à dire, mais c'est un sujet agricole, mais c'est un sujet fiscal, économique, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet social. Et en fait, j'ai de suite vu dans sa méthode d'appréhender la chose politique, les canaux d'action sur chacun des acteurs à la tête de ces institutions politiques-là.
Vous vous êtes dit qu'il fallait embaucher un lobbyiste, du coup,
Alors, oui, c'était une possibilité, mais je trouve qu'on pourrait être très très bien accompagné par Jean-Claude Adler. Ouais.
Jean-Christophe.
Mais je pense qu'ils savent accompagner de jeunes entreprises, ouais. Et on en reparlera.
Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que travaillent vous et moi, F. Chégaré, aux côtés des start-up, des créateurs d'entreprises. Cette dimension lobbying, on a souvent tendance finalement à l'oublier.
On ne l'a pas exploré, effectivement. Ouais. Peut-être que certains le font de leur côté. Il y a toujours une question de moyens, de disponibilité, de compétences spécifiques qui se posent. Et effectivement, tenter des actions, c'est pas toujours les réussir. Donc la méthodologie, les bonnes personnes, le timing, l'agenda, c'est hyper stratégique.
Bon, vous étiez content à l'arrivée de cette expérience?
Ah oui, très 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 content. Et puis surtout, ça m'a donné des clés de compréhension de la manière dont je devais agir demain. Et puis ne pas oublier l'adage du monde agricole qui est en place depuis très 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 longtemps. L'agriculteur vit pauvre et meurt riche. Donc l'idée pour changer tout ça, c'est ce nouveau mode de penser et de consommer l'agriculture, va être obligé d'être accompagné par les pouvoirs publics. Et ça, je l'ai clairement compris. J'ai vu qu'il y avait vraiment une clé de levier très très importante.
Alors on est allé voir, on est allé demander à Jean-Christophe Adler, le président des Affaires publiques consultant, comment lui, il avait vécu l'événement, quelles sont les conclusions qu'il en tirait, ce qu'il avait aimé et aussi éventuellement ce qu'il avait moins aimé. Écoutez Jean-Christophe Adler.
Oui, PharmUp, c'est pas un cas difficile pour nous, c'est un cas intéressant pour le dirigeant. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans un secteur extrêmement administré et je pense qu'ils avaient une vision un peu restreinte de l'action qu'ils devaient engager. Or, s'ils veulent faire bouger les lignes, faire évoluer les cadres, il va leur falloir déployer une stratégie beaucoup plus ample et passer beaucoup plus de temps et s'engager davantage. Mais je crois qu'ils ont parfaitement conscience de cela et qu'ils en ont l'envie. Et je pense qu'ils méritent de le faire parce que c'est vraiment une solution qui est très convaincante.
Laurent, quand vous entendez effectivement Jean-Christophe Adler qui vous parle un petit peu du coup d'après, comment est-ce que vous le recevez ?
Ah ben je le reçois très 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 bien et ça me donne envie de le jouer immédiatement. Hein. Donc de suite envie d'écrire au président Macron, au Premier ministre. Je pense qu'il faut le faire très rapidement, ouais. Sans retenue.
Mais oui, vous voyez, vous visualisez très bien concrètement ce qu'il entend par stratégie d'aller plus loin, d'aller plus vite.
Oui, oui. Ben je pense déjà il y a la première prise de contact déjà qui doit être faite à mon avis sans délai. Et ensuite derrière il faut qu'on suive, qu'on mette en place une structure qui va permettre de suivre justement tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, tout ce qui se passe dans les questions au gouvernement, etc. pour essayer de décrypter justement la manière dont nous on peut intervenir.
F. Chégaré, c'est un nouveau métier là qu'on va obliger Laurent Bernet à faire un nouveau métier.
Non, mais c'est un nouveau métier. C'est une vraie ressource à dédier à ça. C'est vrai que ça peut être une agence. Je vois que Laurent n'est pas forcément rentrer dans les détails, mais ses activités tournent bien, donc il peut dédier du temps à cette activité et il doit le faire, et c'est le rôle du dirigeant. Et là, on n'a pas tous les détails, mais on a eu une richesse dans la méthodologie qui nous a été donnée. Par exemple, ce premier courrier à faire au ministère et à la présidence de la République, on sait quasiment là comment le rédiger à la virgule près. Même avoir un petit coup de main, un feedback, pour aiguiller tout ça de la part d'Affaires publiques consultants. Donc, on est vraiment en piste pour ça.
Merci infiniment. On va passer à la dernière séquence de cette émission, la dernière séquence avant la grande finale en public, en direct sur BFM Business du 19 juin. On l'a appelé les QQT.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Bonjour Laure Closier.
Bonjour Nicolas.
On appelle ça les QQT.
Ouais, les c'est ça qui fait mal.
En fait, voilà, pendant 1 minute 30, Laure, elle a tous les droits. Elle a nos finalistes, elle leur pose les questions qu'elle veut dans tous les sens. Ils sont obligés de répondre de manière hyper sobre, hyper courte. Et là, c'est l'interview salope patron.
Oui, absolument. Alors Dixie, vous êtes un inventeur, mais est-ce que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à des questions difficiles? Vous répondez juste en un mot. Alors est-ce que vous êtes prêt à détester vos salariés?
Pas du tout.
Est-ce que vous êtes prêt à couper des têtes?
Oui.
Ah, est-ce que vous êtes prêt à donner des ordres?
Bien sûr.
Est-ce que vous êtes prêt à déléguer?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêt à recruter des inconnus?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêt à vous justifier sans cesse?
Parfois.
À répéter 20 fois la même chose?
Non, c'est que les gens n'ont pas compris, donc non, on les garde pas.
Ceux-là, on les vire, on coupe la tête. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt à organiser des pots au bureau?
On le fait déjà, oui.
Il faut aller loin hein, quand on est patron. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire traîner au prud'homme?
Non, mais s'il faut, on ira. Il faut se battre
ça
aussi.
Ça va vous arriver, hein. C'est sûr.
Ouais. Mais on ira.
C'est violent, la vie d'entrepreneur. Et la question la plus difficile, entre Sherpet, Travolib et WeFarmUp, lequel on licencie avant la finale?
Travolib.
Il vous fait peur?
Pas du tout.
Donc, juste comme ça?
Non, j'ai une raison précise.
Bon, il a une raison précise, il la gardera pour lui.
Il la gardera pour lui.
Voilà.
La
garde, ouais. Il va répondre par un seul mot, oui ou non. Alors bon, il ne peut pas nous en dire. Ah. Il pourra pas nous en dire plus.
Il nous dira à la finale.
Il nous dira à la finale. On retient quand même. Hein. On ira le chercher à la finale, on aura plus de temps.
BFM Academy, l'ultime conseil du coach.
Alors ça va être très très simple, Evelyne. Pourquoi voter pour Alain Tixier et son coussin Victor, et puis son dernier conseil pour que ça soit bien préparé?
Alors dans ce vote, il y a un vote pour deux points. Il y a Alain Tixier et son coussin Victor. Donc il y a deux êtres séparés et que j'aime beaucoup tous les deux. C'est-à-dire il y a l'homme Alain qu'on voit qui est très dans la relation, qui est quelqu'un qui est très ouvert aux autres et qui on sent est en deuxième partie de vie a eu envie de porter un projet assez exceptionnel. Et puis il y a le coussin Victor qui répond, qui est dans la silver economy et qui répond à un vrai vrai besoin. On a tous des grands-parents et là la solution elle est exceptionnelle. C'est l'iPad pour la personne âgée. Et on voit en plus que dans la solution coussin Victor, il y a plein de choses qu'il va pouvoir encore mettre en place, il y a plein de fonctionnalités. Donc il a un produit extraordinaire, donc c'est lui qui doit gagner.
C'est lui qui est la botte secrète pour la finale?
La botte secrète, c'est beaucoup travailler sur la finale, bon. Beaucoup travailler sur les questions qui tuent, et puis travailler un côté un peu plus affirmatif.
À suivre les QQT de Sherpay.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Et on retrouve Laure Clausier, qui normalement n'est pas méchante, avec les QQT. Et là, c'est l'interview, l'heure des comptes.
Bah oui, parce que votre slogan, David, c'est « Faites l'amour, pas les comptes ». Alors justement, moi, je vais vous demander quelques petits comptes. Vous me répondez rapidement. Alors, seriez-vous prêt à acheter vos services si vous étiez client?
Je le suis déjà, donc oui.
Excellent. Que pourrait dire votre principal concurrent de vous?
Faites l'amour, pas les comptes.
On est en boucle. Hein. Si on faisait une petite critique valable, quelle serait-elle? Il y a une critique qui
existe. Métier de blagounette douteuse.
Ah, vous êtes lourd, donc. Quel serait le vrai compliment qu'on devrait vous faire?
Mais bonne blagounette.
Toujours aussi lourd. Est-ce que vous connaissez l'image que vous laissez de vous, à part le fait d'être lourd?
Peut-être un peu dynamique.
Qui est votre modèle?
Mon grand-père.
Mais non, c'est Fabrice, votre modèle.
Fabrice. Mais mon grand-père s'appelle Fabrice.
À quand remonte la dernière fois où vous êtes senti génial, à part il y a 2 secondes?
Il y a 3 secondes. Quand j'ai dit faites l'amour, pas les comptes.
Bon, allez, sur vos 3 concurrents, qui de Coussin Victor, WeFarmUp ou Travolib est vraiment un concurrent à votre hauteur?
Alors, moi j'aime bien Travolib parce qu'on a une histoire commune, on a eu le soutien d'Xavier Niel tous les deux, on a suivi des programmes d'accompagnement qui sont similaires, et donc voilà, c'est celui qui me fait peut-être le plus peur.
C'est le challenger.
L'ultime conseil du coach Fabrice Marcel.
BFM Academy. L'ultime conseil du coach.
Fabrice Marcella, on a une 30 secondes. Pourquoi il faut voter pour David Finel et Sherpay, et quels conseils vous lui donnez pour être sûr que les gens vont voter pour lui?
Alors pour ça, je vais m'adresser directement à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voter Sherpay, c'est voter pour la start-up qui est la start-up qui a le plus fort potentiel, qui a le service le plus innovant et qui répond en tout cas à des problématiques qu'on a tous les jours. Voter pour Sherpay, c'est voter pour la carte dont tout le monde rêve d'avoir dans sa poche. Et voter Sherpay, c'est voter pour la start-up qui a tous les critères de beauté d'une start-up qui va réussir. En tout cas, si elle gagne cette BFM Academy, je vous promets que ce sera la start-up qui va exploser dans les mois à venir.
Un petit conseil avant la finale pour...
Alors, un petit conseil pour David. J'ai vécu une première finale l'année dernière. La finale, ça s'adresse à un public, donc faut éviter tous les jargons, faut essayer de séduire le public qui est en face et pas les coachs, faut essayer de séduire aussi toute ta communauté, il faut absolument mobiliser tout le monde pour que tout le monde vote pour toi. Voilà, tu peux y aller sereinement, je serai là à tes côtés. Hein.
Dernière séquence des QQT à suivre.
BFM Academy, les questions qui tuent.
On retrouve Laure Clausier.
Oui.
Dernière torture avant la finale. Les questions qui tuent, donc, pour Mathieu Burin et Travolib.
Oui, vous voulez révolutionner le monde des travaux. On va voir si vous êtes au point sur les chantiers. Alors, vous me répondez en un mot aux questions suivantes. Vous refaites, vous, votre propre salle de bain. Est-ce que vous passez par Travolib?
Oui.
20 000 euros pour refaire la peinture dans un 50 mètres carrés, c'est cher ou c'est pas cher? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, selon votre site, c'est un peu cher. Hein. Que veut dire PMC?
J'en ai aucune idée.
Parquet, moulure, cheminée. Celui qui cherche un appartement, c'est ça. 1000 euros le mètre carré pour tout refaire. C'est une idée reçue ou pas?
C'est pas mal, ça dépend.
Si on vous demande de peindre du marbre en rose, vous prenez le chantier ou vous appelez la police?
On prend du marbre rose directement.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à vos parents? Acheter une bicoque à refaire ou aller tranquillement chez Pierre et Vacances?
Oh, la bicoque à refaire.
Et alors, que veut dire le verbe maroufler?
Alors, la maroufle, c'est quand vous déposez du papier ou du papier peint pour pouvoir ensuite peindre dessus.
Et après, avec votre petit bras, vous faites comme ceci. Sur lequel de vos concurrents êtes-vous prêt à faire tomber une plaque de plâtre? Coussin Victor, Sherpay ou We Farm Up? Certains ont dit du mal de vous, hein, je vous le dis.
J'ai entendu parler de ça. Alors moi je trouve bravo à tous parce que je trouve ça génial.
C'est ouais, ça,
démago,
ouais.
Démago,
c'est
là.
Ça.
Démago.
Bravo à tous.
Après j'ai ma petite préférence sur les personnes âgées que je ne citerai pas.
D'accord. Je pense que les plaques de Victor qui sera massacré.
Bon, avant de clore avec l'or, c'est l'ultime conseil du coach.
BFM Academy. L'ultime conseil du coach.
L'ultime conseil du coach de Geoffroy de Bec de Lièvre. Avant quand même, pourquoi il faut voter pour lui à la finale?
BFM Academy est là pour détecter les futurs unicornes tels que les Blablacar. Et je pense qu'on en tient une quasiment dans les mains. On a une super équipe. Il a levé de l'argent auprès des meilleurs investisseurs comme Xavier Niel. Il s'est donné les moyens de ses ambitions. Et il est sur un marché qui est absolument colossal. Sauf que c'est pas si simple. La route est longue. Donc un petit coup de pouce d'un point de vue marketing, communication de BFM serait le bienvenu.
Avant la finale, là, quel est l'écueil qu'il doit éviter? On a vu un peu ce qu'en pensait Frédéric Mazzella.
Je pense continuer à simplifier son message quand il dit, voilà, c'est mieux et moins cher, mieux et moins cher pour telle raison. Voilà, continuer à avoir un message simple, compréhensible par tous.
À suivre, les dernières questions qui tuent de Laure Closier avec We Farm Up.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Voilà, les dernières QQT avec Laure Closier. Là, c'est Laurent Berned et We Farm Up et c'est l'interview gros sous.
Et oui, parce que Laurent veut parler d'argent avec les agriculteurs. Eh bien, nous aussi, on va parler d'argent avec lui. Alors, Laurent, combien gagnez-vous?
Alors, le premier exercice clos est bon et on est dans la prévision en 2017, en tout cas.
Un mot. Avez-vous une assurance vie?
Oui.
Avez-vous des actions?
Oui.
Qu'est-ce que vous achetez sans compter?
Je pense que c'est les plaisirs pour la famille.
Qu'est-ce que vous pourriez arrêter d'acheter?
Le matériel agricole.
Bonne réponse
de l'amiral. Si je vous donne une carte illimitée, vous achetez quoi en premier? Du matériel agricole.
Non, je crois que ce sera un voyage, parce que voyager et les vacances, c'est travailler.
Demain, vous levez 10 millions d'euros. Quelle est votre priorité?
L'acquisition de matériel agricole. Je veux les dénicher, ces matériels qui sont sous les hangars, là.
Je crois qu'il fallait plus en acheter.
Mais ils y sont. Je veux juste les faire apparaître.
Dernière question. Parmi Coussin Victor, Sherpay et Travolib, à qui donneriez-vous un pot de vin pour qu'il arrête la compétition?
Alors, si je dispose d'un pot de vin, je pense que je vais tous les embaucher parce que j'ai besoin de continuer à renforcer mon équipe et j'ai vu qu'il y avait des talents.
Ils sont langue de bois, c'est pas possible.
Ouais. Ils n'ont pas besoin de coaching pour être langue de bois. Hein.
Mais donnons-lui le pot de vin,
il est déjà politique.
On ira le boire ensemble, de toute façon, après la finale. Tout de suite, c'est l'ultime conseil du coach.
BFM Academy. L'ultime conseil du coach.
Pourquoi il faut voter pour We Farm Up, F. Chégaret? Et puis, ultime conseil avant la finale, quand même.
Alors, pourquoi il faut voter pour We Farm Up? Parce qu'on a un projet de société, mais d'une ampleur. Je reprends le mot ample de Jean-Christophe Adler. Voilà, ça nous touche tous. Si les agriculteurs vont mieux, toutes nos filières alimentaires et autres vont mieux. Et puis, il n'y a pas que l'alimentaire. C'est la première fois, moi, que j'accompagne un projet aussi vaste. Et je pense qu'il est temps que tous les Français et les auditeurs de notre émission se mobilisent pour un projet, voilà, qui est aussi large et qui nous touche tous. C'est ça, vraiment. Et quelque part, c'est quelque chose de très humain. Il y a des valeurs. C'est le mix entre le numérique et la terre. Bref, je suis à fond et vous le serez aussi.
Et les de la finale à éviter?
Alors attention, c'est pas parce que c'est beau, ample et tout ce qu'on veut que c'est facile. Comme c'est un fonceur, un meumeur d'hommes, quelqu'un qui a l'habitude d'aller vite, l'écoute, va falloir la bosser. Et il faut s'autoriser de l'improvisation, être dans l'instant et peut-être lâcher le contrôle.
Voilà, c'était donc cette dernière émission avant la grande finale de la BFM Academy saison 12. Ça se passera lundi 19 juin, ce sera en direct et en public comme tous les ans entre 19h et 20h30 sur BFM Business. D'ici là, tiens, je vous laisse avec un petit souvenir de ce qui s'est passé lors de la saison 11. Regardez bien et puis on se retrouve nous dans une semaine pour la finale.
Cette année encore, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. 50 ont pu passer les castings de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris. Et seulement 10 ont été retenus pour la compétition. Commercial, stratégie, marketing, innovation, communication. Il a fallu convaincre les 5 coachs de la BFM Academy. Et désormais, ils ne sont plus que 3 en compétition. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui choisirez.
BFM Academy, c'est une émission exceptionnelle, tout simplement. C'est un Yes Weekend à la française. 1h30, totalement en direct depuis le studio Gabriel à Paris. Il y a 3 finalistes de cette saison 11 de la BFM Academy. Des gens assez surprenants, des gens qui vont de l'avant quoi qu'il arrive, peu importe les vents contraires.
Ça représente une super aventure. Déjà, on est en finale, c'est exceptionnel.
C'est un rêve éveillé, absolument, c'est incroyable.
C'est une consécration, beaucoup de stress. Le chemin était long, hein. Ça fait plus de 4 mois qu'on a commencé le concours.
Chacun dans votre domaine, vous avez su innover, remettre en cause un ordre établi, inventer de nouveaux usages.
Les entrepreneurs sont de plus en plus prometteurs et convaincants.
Ce sont des créatifs et la création en France est quelque chose qu'on aime bien.
Nous avons accompagné beaucoup d'entrepreneurs. On peut en être fiers, puis modestes. Il y a des vainqueurs et puis tous ceux à côté qui sont là pendant une saison.
Mais tout va être remis à zéro là tout de suite.
Les bots sur Internet vont se refermer. Le public ici présent va voter au moyen d'un petit boîtier. Le jury aussi va voter pour élire le lauréat de cette saison 11. Pour découvrir le nom du lauréat, pour lui remettre son prix, j'accueille Anne-Laure Constanza. Et Guilhem Nouvel, allô.
Vraiment, les 3 finalistes sont de haut vol et qui montrent justement que la France a tout pour réussir.
La France, c'est un pays où on entreprend beaucoup. Il y a quand même 500 000 entreprises qui sont créées tous les ans en France. Donc c'est énorme, il y a une vraie dynamique.
On va savoir pour qui le public, Internet et le jury a voté.
Et le gagnant est Digifood.
BFM Academy sur BFM Business. Le 19 juin, il n'en restera qu'un.